France Culture.
C'est l'histoire d'un libéral somme toute assez sentimental, Jean-Charles Léonard Simonde de Sismondi, qualifié bien après sa mort d'économiste romantique, a en effet cherché à conjuguer deux approches qui à première vue semblent bien peu compatibles. D'un côté, l'économie mathématique, science exacte de l'ingénieur, qui cherche à comprendre les facteurs de la croissance, et de l'autre, l'idée d'une science morale qui se préoccupe aussi, voire surtout, du bien-être de chaque individu. Sismondi, en se faisant historien mais aussi philosophe, a mis au point une vision de l'économie politique qui lui est propre et qui font de lui une sorte d'original. C'est au nom du libéralisme à la fois politique et économique qu'il critique vertement la révolution industrielle telle qu'elle prend forme dans l'Angleterre du début du 19e siècle. Il dresse alors ce constat implacable. L'Angleterre, en oubliant les hommes pour les choses, a sacrifié la fin aux moyens. Un Suisse contre les économistes anglais, Sismondi ne s'est pas fait que des amis en s'en prenant à Ricardo et Malthus et dans une moindre mesure à Say, mais il l'a fait en défendant un principe qui n'admet aucune renonciation et aucun compromis, le libéralisme. Alors de Genève à Londres, en passant par la Toscane, nous allons voyager avec Jean de Sismondi jusqu'à 15h dans cette émission préparée par Paul Weinarter, programmée par Bruno Barada, réalisée par Françoise Leflocq et mise en onde aujourd'hui par Alex Dang. Et deux invités sont avec nous aujourd'hui, Pascal Bridel et Nicolas Aiguesier. Bonjour.
Bonjour.
Pascal Bridel, vous êtes professeur émérite à l'Université de Lausanne. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage dans lequel vous parlez entre autres de Sismondi, mais ça va être bien utile aujourd'hui, intitulé « Essai sur l'histoire de la pensée économique, un nain sur les épaules des géants » paru chez Classique Garni en 2022. Et vous êtes avec nous depuis les studios de la RTS, la radio-télévision suisse à Genève. Je remercie donc Patrick Tounomel qui assure ce duplex. Nicolas Aiguesier, vous êtes quant à vous docteur en économie, vous êtes secrétaire général de la Revue française des affaires sociale et vous avez rédigé il y a quelques années déjà un essai intitulé « Notes sur la naissance de l'industrialisme » publié aux éditions La Lenteur. Alors vous avez tous deux aussi participé à l'édition des œuvres économiques complètes de Sismondi avec Francesca Daldegan aux éditions Economica en 2018 et cette édition elle donne à elle seule un bon aperçu aussi de l'apport de Jean de Sismondi à la pensée économique. On a reçu au bureau d'Entendez-vous l'écho 6 volumes jaunes assez épais et encore on a appris un peu plus tard qu'il ne s'agissait là que d'un tout petit échantillon de l'œuvre entière de Sismondi qui compte selon son propre décompte 65 volumes. Nicolas Aiguesier, on peut le dire, Sismondi s'intéresse à peu près tout ce qui l'entoure en ce début du 19e siècle. C'est ce qui explique aussi cette œuvre foisonnante et pas forcément entièrement consacrée à l'économie.
En effet, Sismondi a une production assez impressionnante. C'est quelqu'un de très méthodique dans son travail. Donc, il écrit énormément et tout ce qu'il écrit à partir de 1815, il le publie. Donc, ça fait beaucoup. Et à l'époque, il est connu pas tant qu'en tant qu'économiste, mais en tant qu'historien, notamment pour son histoire des républiques italiennes du Moyen-Âge en 13 volumes, qu'il a fait connaître et qu'il a commencé à publier en 1807. Voilà, mais il y a aussi énormément d'écrits, notamment sur la littérature. C'est l'auteur d'une histoire de la littérature du Midi de l'Europe. Il y a même un roman, donc en effet, il écrit sur des thèmes extrêmement variés. Ouais. Et aussi beaucoup d'essais politiques.
Donc il a, on va dire, une perspective assez large et en tout cas une production assez prolifique. On le voit dans de nombreux domaines différents. Pascal Bridel, est-ce qu'on peut malgré tout définir, et malgré ce travail d'historien auquel Nicolas Aiguesier faisait référence, est-ce qu'on peut malgré tout définir Sismondi comme un économiste ?
Oui, sans aucun doute, on peut le définir comme un économiste. Et un économiste un peu particulier, comme vous l'avez dit, parce que il est historien en parallèle à son métier d'économiste, et il est l'héritier de cette tradition française, par exemple Condorcet de la fin du XVIIIe, où on ne fait pas de la classification absolument obsessionnelle entre les différents types de sciences sociales, et notamment chez lui, le rapport entre histoire, philosophie politique et théorie économique au sens ricardien du terme est très étroit.
Et on voit qu'effectivement la pluridisciplinarité, et en tout cas les liens faits entre ces disciplines, va nourrir de façon générale toute la pensée de Sismondi, y compris en ce qui concerne l'économie politique, qui ne peut pas nécessairement se passer de ce recul historique et aussi d'une certaine vision philosophique de ce que doit être ou de ce que peut être la société. Cette diversité de points de vue et d'analyse produite nous raconte une spécificité majeure de Sismondi, Nicolas Aiguezier. Vous le dites d'ailleurs, hein, l'une des préoccupations théorique essentielle de Sismondi est d'offrir une analyse globale de la dynamique de la croissance économique, mais aussi de la croissance sociale. Il y a ces deux aspects-là à chaque fois chez Sismondi qui comptent énormément et qui étaient aussi le fruit de ce regard un peu à 360 degrés.
Alors Sismondi, en effet, commence son premier ouvrage d'importance à la fin du XVIIIe siècle, quand il est encore jeune, c'est les recherches sur les constitutions des peuples libres, qu'il n'arrive pas à publier. Ensuite, en 1803, il va vers l'économie avec de la richesse commerciale, donc qui est une critique de la politique économique napoléonienne. Et ensuite, quand le régime napoléonien se durcit, notamment vis-à-vis des économistes, là, il se tourne vers l'histoire en 1805.
Donc, il a déjà d'opportunisme en fonction des circonstances.
Tout à fait, on peut dire ça. C'est Germaine de Staël qui lui conseille d'aller vers l'histoire pour pouvoir écrire librement. Bien lui en a pris parce qu'il a connu le succès. Mais ce qu'on peut noter, c'est que toute sa vie, il a écrit en économie. Il n'a jamais cessé d'écrire en économie. Donc ça, c'est encore la preuve qu'il est, bon, évidemment, il est économiste. Et ensuite, on pourrait dire, vous avez dit, malgré le fait qu'il soit historien et politiste et constitutionnaliste, il est économiste. Et lui, on pourrait dire même, c'est parce qu'il est constitutionnaliste qu'il est économiste, parce que, en fait, on verra, l'économie, elle vient d'un besoin de réfléchir sur les constitutions, sur la forme de la société moderne.
Alors justement, pour bien comprendre la spécificité de la façon dont Sismondi envisage la discipline économique et qui n'est de fait pas compartimentée, on l'a dit grâce aussi à Pascal Bridel, et avant d'aborder la façon dont il en arrive aussi à tâter de plusieurs disciplines, vous avez évoqué la figure de Germaine de Staël, on va y venir. Avant ça, je voudrais vraiment qu'on comprenne la spécificité de Sismondi par rapport à cette discipline, et cette discipline particulière qu'est l'économie politique. On le comprend, Sismondi, de ce point de vue-là, fait figure de cas à part, et il en a conscience lui-même, puisqu'en 1838, 4 ans avant sa mort, donc, il revient dans le deuxième tome de ses études sur les sciences sociales sur sa vision, justement, de l'économie politique.
Aucune des sciences sociales n'a, dans le cours du dernier siècle, été cultivée avec plus de zèle que l'économie politique. Aucune ne peut présenter plus de noms illustrés par l'étendue des connaissances ou la noblesse du caractère. Aucune ne compte parmi ses écrivains tant de profonds penseurs et de philosophes. S'il en est un, Adam Smith, que nous considérions plus particulièrement comme notre maître, nous en pourrions nommer plusieurs, que nous nous honorons d'appeler nos amis, plusieurs qui réunissent à nos yeux, et dans leur esprit et dans leur âme, tout ce qui doit inspirer le respect. Ce n'est donc point sans un sentiment de défiance et de crainte que nous nous avançons par un chemin absolument différent du leur, que nous développons successivement un système qui s'écarte également de tous ceux qu'ils ont suivis. Les économistes ne font point naître les événements du monde industriel. Ils se contentent de les observer et de les expliquer. Nous ne leur attribuons donc point ces souffrances. Mais la différence entre eux et nous, c'est que, témoins comme nous d'une direction toute nouvelle que suit aujourd'hui l'esprit humain, d'une ardeur industrielle qui semble saisir tous les États, d'un empressement à innover, à perfectionner, à produire dans tous les arts, dans toutes les applications des forces humaines, ils y ont applaudi de tout leur cœur. Ils ont appelé toutes les énergies latentes à les seconder, à rivaliser les unes avec les autres pour aller toujours plus vite. Et nous, au contraire, nous n'avons senti que de l'alarme de ce mouvement qui entraîne la société. Nous en avons signalé les fâcheuses conséquences dans le présent. Nous en avons annoncé de plus fâcheuses à l'avenir. Et nous avons appelé tous les penseurs, tous les gens de bien, tous les amis de l'humanité à nous aider à retenir, à retarder le char social qui, dans sa course accélérée, nous paraît se précipiter vers l'abîme. Une appréciation si différente des effets du mouvement social n'est point pour nous la conséquence de l'esprit de système, car nous avons commencé par adopter pleinement les principes de l'école dominante. Et ce n'est que lentement, entraînés par les faits, par les observations, que nous les avons abandonnés l'un après l'autre.
« Ce qu'on entend, Pascal Bridel, dans cet extrait, c'est que Sismondi a lui-même conscience de faire à la fois partie de l'école dominante. Il le dit lui-même, il a commencé à adopter pleinement les principes de l'école dominante. Et puis ensuite, il s'est fait beaucoup plus critique vis-à-vis de cette école dominante, cette tension-là qui va, on va dire, tendre toute notre émission. On va comprendre d'où vient cette critique. Mais ça nous dit quelque chose aussi du positionnement de Sismondi. C'est certes quelqu'un qui s'inscrit dans un courant dominant, mais qui n'a pas tout à fait sa place dedans non plus.
Oui, effectivement, si je peux faire deux remarques sur ce qui vient d'être dit à propos des origines de l'intérêt de Sismondi pour l'économie. On a parlé du groupe de Coppet. Je rappelle que Madame de Staël était la fille de Jacques Necker, le dernier contrôleur des finances de Louis XVI. Et Madame de Staël a fait des allers-retours avec les rappels différents et les évacuations répétées de Necker par Louis XVI. Et c'est elle qui, finalement, au tout début des années 1800-1803, pousse, si je puis dire, Sismondi sur la voie de l'économie. Et au cours de son séjour, pour différentes raisons, en Angleterre, Sismondi découvre Smith. Et comme vous l'avez dit dans le texte qui a été lu, Smith est son grand patron, son grand maître à penser. Et Smith tente, comme on le voit souvent, de réconcilier les attentes économiques et sociales pour qu'un ordre économique puisse exister dans la société et pour que les capacités de coordination des marchés constituent un ordre naturel et efficient. Et il cherche non seulement à démontrer Smith, qu'un tel ordre existe et qu'il aboutit à un résultat de coordination des interactions économiques, mais aussi et surtout qu'il n'offense pas la sensibilité morale des agents économiques. Donc on est dans une situation où, dès le départ, Sismondi empoigne à la fois le premier ouvrage de Smith, qui est la théorie des sentiments moraux, avec le concept de sympathie chez Smith, et la richesse des nations, dans lequel on trouve naturellement la main invisible qui règle le marché. Donc Sismondi, qui empoigne cette idée extrêmement englobante de Smith, défend d'abord une approche a prioriste, presque ricardienne de la théorie économique, mais il insiste sur la nécessité absolue de relier ce qu'il appelle une démarche catalytique, ce vieux mot grec lié au marché, à l'économie comme éthique, dans le cadre de son intégration à une analyse du développement de la société et des institutions qui sont garantes pour lui de la liberté. Et c'est que cette approche, cette double approche de l'économie comme ingénierie, c'est ce que font tous les économiques, et de l'économie comme éthique ou comme science morale, est réapparue extrêmement récemment sous la plume d'Amartya Sen, pour ne nommer que lui, où il est à la recherche d'une discipline d'économie politique qui réconcilie l'ingénierie de la théorie économique, Dieu sait si on fait des maths, et de l'autre côté, l'économie comme éthique. Et le problème central chez Sismondi, c'est qu'il va se heurter avec cette double approche à Ricardo, qui, lui, ne voit que l'hypothèse d'une théorie ingénierie qui s'intéresse presque exclusivement à l'accroissement de la richesse. Je termine par une citation de Sismondi qui résume la totalité du propos maladroit que je viens de tenir. Il dit « La richesse est-elle le but de la société ou le moyen d'atteindre ce but ?» Sous-entendu, Ricardo ne s'intéresse à la richesse comme but de la société, et moi je m'intéresse aussi aux moyens d'atteindre ce but.
Alors là, Pascal Bridel, vous venez de nous résumer effectivement tout ce qu'on va voir tout au long de cette émission. On va tirer tous les fils que vous venez de tisser pour nous, notamment le rapport à Ricardo, et puis revenir aussi sur cette jeunesse suisse qui a marqué finalement aussi ses débuts. Et le contexte est extrêmement important. Mais pour conclure, peut-être ce premier rapport de l'aperçu aussi de ce que Sismondi a apporté à l'histoire de la pensée économique, Nicolas Aiguezier, il parle de l'économie politique et il y a une économie politique, selon Sismondi, on va dire, qui se nourrit, on l'a bien compris, à la fois du recul historique, mais aussi de la philosophie politique. Comment pourrait-on définir cette économie politique pour celles et ceux qui n'en auraient jamais entendu parler? En quoi l'économie politique se distingue-t-elle au sein de cette très vaste histoire de la pensée économique? Qu'est-ce qui caractérise l'économie politique
de Sismondi?
Et a priori, celle de Sismondi.
De Sismondi. En fait, moi, je dirais que Sismondi, en effet, il décrit très bien. Il occupe une place assez originale pour les raisons que vient de dire Pascal Bridel au sein des économistes. Donc il va apporter une dissension, mais en fait cette dissension, elle a été rétrospectivement, à mon avis, exagérée. Donc quand il dit que c'est un ami des économistes comme Jean-Baptiste C, Malthus, c'est pas un effet de style. Il partage vraiment les opinions politiques. Il est vraiment libéral et Malthus était à son mariage. Il a rencontré Ricardo à Copé, etc. Donc c'est pas un effet de style. Hein, c'est pas un effet rhétorique.
Voilà. Donc il y a vraiment cette proximité-là. Vous l'avez dit, cette inscription dans ce paysage libéral vient bien de quelque part. Et de fait, il faut le dire, on n'a peut-être pas assez insisté dessus, mais Sismondi est suisse. Voilà, il est né à Genève. Et c'est très important aussi dans sa construction intellectuelle, Nicolas Aiguesier. Il est né donc le 9 mai 1773 à Genève. Genève est quand même le théâtre de beaucoup de remous, on va dire, de l'histoire à cette époque-là. Et plus précisément en 1793, Sismondi a alors 20 ans. Il s'ensuit une période, on va dire, assez compliquée, puisque Genève est confrontée aux émanations de la Révolution française. L'ancien régime est aboli, une constitution est votée. Et ça, Nicolas Aiguesier, ça a des conséquences, à la fois pour Sismondi, mais surtout pour sa famille. Ça va être une forme de bouleversement, ne serait-ce que d'un point de vue personnel, mais qui va avoir des retombées aussi plus larges sur sa perception aussi de ce que peut l'économie politique.
Alors voilà. Alors je rajoute une phrase là par rapport au libéralisme. Donc ce qui va se passer après 1815, et ensuite je vais revenir à Genève tout de suite après. Ce qui va se passer après 1815, c'est qu'il va y avoir tout un débat au sein du libéralisme, dont Sismondi fait partie à plein titre, sur la manière dont on doit interpréter Smith. Donc lui, il va dire, moi, je reste smithien, mais il faut changer la théorie. Mais c'est pas le seul, en fait. Il se présente comme quelqu'un, mais en fait, il y a beaucoup d'interprétations différentes de Smith. Bon, on reviendra là-dessus.
Mais vous faites bien d'insister là-dessus, parce qu'on a dit Smith est le maître à penser, on va dire, au moins au départ, le point de départ de Sismondi, mais c'est aussi, effectivement, par sa lecture qu'il arrive à l'économie. C'est la lecture de Smith qui fait que Sismondi s'intéresse à l'économie d'une certaine manière.
Indéniablement. Alors, il y a aussi l'article Économie politique de Rousseau dans l'encyclopédie. Il y a d'autres choses. Mais en effet, Smith est très lu à Genève à l'époque et tout ça. Il y a aucun doute. Hein, ça. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que donc, Sismondi est victime de la terreur genevoise. Il y a un petit épisode de terreur avec 8 condamnés à mort à Genève et une condamnation effective. Donc, c'est pas la terreur. Ensuite, on peut réfléchir, parler du terme de terreur, bon, oui. J'utilise le terme de terreur un peu de manière courante. Hein. En tout cas, c'est comme ça que les libéraux le perçoivent. Et ensuite, en effet, il y a son exil toscan. Il va en Toscane, à Pescia, qui est une petite ville à côté de Florence. Et là, il rentre, il est dans l'opposition à Napoléon. Donc, il va utiliser la théorie smithienne pour critiquer la politique économique napoléonienne. Voilà. Donc, la spécificité pour moi de Sismondi, c'est que, en fait, il est à cheval. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'il est à cheval entre le 19e et le 18e. C'est vraiment un homme du 18e parce qu'il y a la Révolution, il y a les Lumières, c'est très important, le progrès, etc. Et ensuite, il va assez loin dans le 19e siècle pour voir l'industrialisation, ce genre de choses. Donc, il a un poste d'observation vraiment privilégié de ce point de vue. Il est vraiment entre les deux époques.
Privilégié et original, et c'est ce qui fera aussi l'originalité de sa pensée. Pascal Bridel, ce contexte genevois, alors on l'a compris, pas tout à fait entièrement genevois, puisqu'il y a ces exils qui sont liés aussi à la terreur en Angleterre, puis on l'a dit en Toscane, mais ce contexte genevois, il va beaucoup compter aussi pour Sismondi. C'est un lieu où, de fait, il revient malgré tout entre deux périodes d'exil. Et il y a à la fois Genève et il y a ces voyages-là qui vont compter. Comment ce contexte de Genève-là va permettre d'infuser, on va dire, dans sa pensée aussi?
Donc, comme vous l'avez dit, l'essentiel de ses voyages, c'est il voyagera régulièrement au cours de sa vie en Angleterre, puisqu'il avait une femme qui était galloise. Mais avant de revenir définitivement à Genève en 1800, il fera des séjours, de longs séjours en Angleterre et en Toscane. Mais il reviendra toujours à ce qu'il décrivait en italien comme la Ginevra celeste, la Genève céleste, dans le sens où pour lui, la petite cité, la petite société, étroitement liée, industrialisée un peu avant l'heure, était l'idéal de la société et non pas l'immense société industrialisée à l'anglaise. De plus, il y a ce côté du sentiment d'appartenance à une petite république protestante noyée au milieu d'une mère catholique qui porte encore extrêmement influence sur Sismondi. Donc il a ce sens d'appartenir à une petite communauté et le sens de la petite communauté et de la proximité, par exemple, dans une entreprise entre le patron et le salarié est quelque chose qui reviendra systématiquement au cours de ses écrits strictement économiques.
Une petite communauté, mais potentiellement une petite communauté menacée, Sismondi revient à Genève en 1800. Genève qui, depuis 1798, est annexée à la France, qui connaît une plutôt mauvaise situation économique. Et c'est un moment, là encore, important pour le positionnement théorique de Sismondi. Il intègre en 1802 ce fameux cercle qu'on a évoqué depuis le début de l'émission, mais un cercle qui est particulièrement remonté contre Napoléon. Pascal Bridel, pourquoi cet anti-bonapartiste chez ces fameux membres du cercle dit de Copé, et puis quel est évidemment ce cercle au sein du paysage intellectuel, on va dire, genevois?
Eh bien, ce cercle intellectuel, on n'est pas tout à fait à Genève, on est à 50 km dans un autre pays, mais vous avez ici essentiellement l'âme du groupe de Copé, Germaine de Staël, violemment, mais très violemment anti-bonapartiste, exilée de France par Bonaparte, puis par Napoléon, et qui mettra sur pied ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un think tank libéral, probablement le premier think tank libéral de l'histoire, où elle réunit toutes les oppositions intellectuelles, s'entend bien, à Napoléon. Et parmi ces recrues, ces personnes recrutées par elle au château de Copé, eh bien, on trouve naturellement Sismondi, mais on trouve aussi un opposant très virulent à Napoléon, que sera Benjamin Constant. Et l'un et l'autre passeront une bonne partie des 10-15 premières années de leur vie, avec Madame de Staël, bien entendu, à critiquer par écrit violemment et à travers tous les pays d'Europe qu'ils parcouraient pour échapper à la police de Napoléon, eh bien, ils reviendront, comme l'a dit très bien Nicolas tout à l'heure, ils reviendront à de meilleurs sentiments à l'égard de Napoléon. Sismondi, par exemple, sera reçu par Napoléon durant les 100 jours pour donner des conseils à l'empereur qui cherchait à réviser les constitutions de l'Empire, et on connaît tous le côté un peu girouette de Benjamin Constant à l'égard de son opposition à Napoléon. Donc on est bien là dans un cercle intellectuel très libéral et très anti-napoléonien.
Mais alors justement, Nicolas Aiguesier, et pour peut-être rentrer un petit peu davantage dans la théorie aussi, que reproche très concrètement Sismondi, entre autres, aux douanes napoléoniennes? Qu'est-ce qui ne convient pas selon lui, et plutôt d'un point de vue théorique encore? Pourquoi pour lui c'est une forme d'aberration finalement que de voir les marchandises anglaises prohibées, saisies, brûlées? Pourquoi ça n'a pas de sens pour lui?
Alors, il faut savoir, premièrement, donc Genève c'est une république. On reviendra peut-être sur le thème de républicain, parce que ça va revenir ensuite dans les années 30. Mais en fait, Genève, c'est une république, et c'est une république très riche. Voilà, l'économie est florissante, et une des industries, évidemment, c'est l'horlogerie. Il y a les indiennes aussi, donc c'est le tissu de coton. Voilà. Mais c'est une industrie et qui est basé sur l'importation de matières premières, parce qu'évidemment, le territoire genevois, en soi, ne veut rien dire. C'est tout petit. Pardon, Pascal, je sais que vous êtes genevois.
Pas d'offense, évidemment.
Mais bon, voilà, c'est tout petit. Donc, c'est une économie qui... Et ensuite, avec l'annexion de Genève à la France, en 99, en fait, Genève se trouve derrière la ligne des douanes. Donc elle se trouve coupée de manière artificielle à ces marchés. Et donc ça bouscule complètement l'économie genevoise. Et là, Sismondi va se faire l'avocat d'un développement naturel en reprenant Smith. En disant, ben regardez, en fait, si on laisse le libre marché, il y a un développement naturel de l'économie, mais avec derrière, et ça qui est très intéressant, et on voit le fil de toute la pensée économique de Sismondi, il dit, cette économie naturelle, c'est avant tout une économie paysanne et artisanale. Voilà. Donc, il y a déjà, dans les lectures de Smith à l'époque, et Sismondi n'est pas le seul, parce qu'il y a Pictet, qui est à Genève, il y a Garnier, le traducteur de Smith en français, qui dit, attention, si on n'applique pas les doctrines d'Adam Smith, c'est-à-dire le libre marché, en fait, le pays va s'industrialiser, on va avoir de la misère, on va avoir des prolétaires, et donc ça, c'est mauvais. Donc il y a déjà une lecture de Smith dans un sens, on va dire, il y a les prémices dans un sens, ce que j'appelais, moi, anti-industrialiste. Voilà.
Et puis, Nicolas Aiguesier, vous parliez de cette organisation plutôt rurale, finalement très tournée vers une forme d'agriculture aussi. Ça vient pas de n'importe où, chez Sismondi. On a parlé très brièvement de ce voyage, enfin de cet exil en Toscane. C'est là aussi qu'il observe, et j'insiste là-dessus, parce que c'est ça aussi qui fait la spécificité de Sismondi. C'est qu'il se nourrit de ses observations sur le terrain, on pourrait dire, sur cette observation de la vie beaucoup plus rurale qu'il a notamment élaborée en Toscane, pour nourrir ensuite sa théorie. En fait, ces voyages, ce ne sont pas que des voyages comme ça dans le vent. Ça sert aussi à une partie beaucoup moins pratique et beaucoup plus théorique dans sa pensée.
Alors, Sismondi était propriétaire d'une métairie à Pescia, donc il l'a acheté avec l'argent familial. Et en effet, il a mis la main à la pâte. Et c'est vrai que son idéal, son modèle idéal, c'est un modèle républicain assez, assez fruste, enfin pas...
Oui, plutôt
assez frugal,
retour aux racines, on va dire.
Assez frugal, et c'est vrai que quand on lit, c'est assez étrange, hein, quand on lit le début de les nouveaux principes d'économie politique, quand il parle de l'histoire de l'économie politique, mais il va dire, regardons les Grecs et regardons les Italiens, regardons comment ça se passe dans la République italienne, l'économie, etc. Donc son modèle d'économie abondante, c'est l'Italie du Moyen-Âge. C'est vrai que c'est assez particulier, mais ça, c'est sûr que ça l'a marqué. Et comme il a vécu en Italie, il a vu ça et il était plutôt favorable à ce modèle-là. Ouais.
Pascal Bridel, on retrouve un Sismondi auteur d'une forme de triptyque, la statistique du département du Léman qui est rédigée au cours du printemps 1801, le tableau de l'agriculture toscane, on en revient à cet exil en Toscane, et la fameuse richesse commerciale qui paraissent respectivement en 1801 et en 1803. Or, ce triptyque-là, ces trois ouvrages-là, et peut-être à plus forte raison quand même, la richesse commerciale, ils ancrent définitivement Sismondi dans le paysage et surtout dans un débat, on a commencé à le dire, qui fait rage en fait dès maintenant, dès ces années 1800, entre les économistes, autour notamment de la question du progrès. Dès cette époque-là, est-ce qu'on peut dire que Sismondi a une position originale avant même qu'il élabore, on va dire, vraiment très concrètement sa critique de l'industrialisme, on va y venir, mais est-ce que cette notion du progrès-là font déjà de Sismondi un économiste un peu à part ?
Je ne dirais pas que la statistique du département du Léman et le tableau de l'agriculture toscane anticipent. Il y a des traces, mais ça n'est pas très visible dans ce triptyque initial de Sismondi, qui les deux premiers ouvrages que vous avez cités, la statistique du département du Léman, est d'une manière très surprenante pour les économistes de l'époque, qui sont plutôt des philosophes qu'autre chose. Ici, on a tout un tas de statistiques, de recherches sur le terrain, qui sont extrêmement surprenantes pour un économiste de cette période, même s'il démontre et décrit très très bien la situation de l'agriculture de Genève et des environs, et surtout de l'industrie naissante à Genève. Et puis, le tableau de l'agriculture toscane est simplement une espèce de compte-rendu un peu élargi de ses expériences comme propriétaire foncier en Toscane. Et c'est avec, en 1803, son premier vrai ouvrage d'économie politique, de la richesse commerciale, que tous les éléments qui viennent d'être invoqués par Nicolas, notamment le problème des douanes, notamment le début de sa critique de l'industrialisme, mais il n'est pas encore Il est plutôt encore dans une économie d'échange que dans une économie industrielle, et en dépit du fait qu'il comprend parfaitement bien les conditions nécessaires et parfois suffisantes pour qu'une économie connaisse une croissance. Et là, on voit qu'il s'inspire de Adam Smith et qu'il essaie de mettre sur pied un début, même mathématiquement, c'est assez amusant, même un début de théorie de la croissance économique qui était déjà la problématique centrale dans la richesse des nations de Smith. Pourquoi il y a des pays riches, pourquoi il y a des pays pauvres. Et maintenant, on est dans une dynamique où la plupart des pays d'Europe sont en train de connaître la croissance. On peut peut-être juste rajouter que dans cette richesse commerciale, il regrette vivement toutes les barrières douanières érigées par Napoléon et le blocus continental jusqu'en Suisse. C'est ce que dit-il, cela nous coupe complètement des capitaux anglais, et ces capitaux anglais seraient extrêmement utiles au développement économique de la France qui manque de capitaux. Donc là, on voit tout de suite une hypothèse de libre circulation des capitaux dès 1803.
Nicolas Aiguesier, pour revenir aussi sur ce qu'a apporté finalement ce fameux ouvrage, la richesse commerciale, il y a aussi cette tension entre certes la théorie économique, mais aussi on voit qu'il y a la vision de Sismondi de ce que doit être la liberté, de la façon dont le marché aussi offre cette liberté-là ou non. Sismondi, il accorde beaucoup d'importance, et d'ailleurs j'ai pu lire, mais je crois que c'était Pascal Bridel qui l'avait écrit, mais que l'économie politique de la richesse commerciale emprunte au républicanisme sa problématique centrale. En fait, pour Sismondi, ce qui est important, c'est de comprendre comment les intérêts de tous passent aussi par le marché, dans le sens où il permet un système de prix qui permet aux intérêts de chacun de s'exprimer. Les deux sont très liés, en fait, liberté et intérêt individuel. Et ce marché qui est censé pouvoir faire exprimer, on va dire, je le résume très grossièrement, mais les intérêts de chacun.
Peut-être il faut insister là-dessus. Enfin, en tant qu'éditeur, nous, on a regardé, on allait chercher les traces de tout ce qui précédait les nouveaux principes qui avaient été enfouis, parce que comme il était dans l'opposition,
on
allait chercher des articles dans une revue lituanienne, une revue de tactique militaire allemande. Donc en fait, on a allé rechercher tous les aspects, mais en effet, sa critique n'arrive qu'à partir de 1815, sa critique forte de l'industrialisme. Et en effet, il y a cette idée de marché. Donc l'idée que le marché, si on laisse la liberté de marché, il va y avoir une amélioration du sort des classes laborieuses, il va y avoir un développement harmonieux, etc., équilibré. Et ensuite, ce qui va se passer, parce qu'on est en pénurie de capitaux, donc là, le mécanisme smithien marche, tous les capitaux vont directement dans le fonds de salaire. Et à partir de 1815, avec les premières crises de surproduction, notamment celle de 1817, on va dire, mais il y a déjà des doutes avec l'Angleterre. Dès 1814, les gens regardent ce qui se passe en Angleterre. Là, le marché change de signification. On parle d'un autre type de marché. Voilà. Et c'est pour ça que là, il commence à y avoir des interrogations assez fortes sur la pertinence de la théorie smithienne après 1815.
Pascal Bridel, vous souhaitiez réagir sur système de prix qui est peut-être plus observé par Sismondi.
Ce problème de marché est absolument central, parce que dans ses tout premiers écrits le marché apparaît comme un espèce de moyen d'émancipation par rapport à l'économie de statut de l'ancien régime, exprimé notamment par les corporations, et il est contre les monopoles, contre les douanes. Pour le Sismondi de la richesse commerciale, l'accès au marché permet à l'homme de fonder sa liberté, sa richesse et son bonheur, c'est sa célèbre trilogie, sur sa capacité propre à se procurer de manière autonome des revenus suffisants, en favorisant, comme de cette manière-là, son inclusion économique et sociale. En revanche, comme l'a mentionné Nicolas, dans une société industrielle, la prise en compte du salariat, qui apparaît entre 1803 et 1815 dans la pensée de Sismondi, présente désormais le marché comme un système extrêmement contraignant. Et pour mettre les choses encore plus brutalement, pour Sismondi, la notion de marché et les vertus socialement et économiquement régulatrices d'un mécanisme de prix, qui était déjà considéré par Smith comme le moins mauvais des systèmes possibles, était supposé accomplir, une fois en place, exactement ce que Sismondi allait rapidement dénoncer comme ses caractéristiques les plus violemment critiquables. Là où l'échange, en 1803, était promoteur d'égalité et de reconnaissance mutuelle entre les échangistes, jouissant chacun d'une très large liberté civile, la production industrielle les divise et les éloigne les uns des autres. Donc, c'est extrêmement intéressant de voir qu'en l'espace de 15 ans, de libérateur, le marché, au travers de l'instauration du salariat et de la concurrence illimitée, est devenu, pour Sismondi, despotique. Il utilise le terme « le marché despotique ». C'est des termes qui rappellent ceux de ses écrits des années 97-1803. Et il semble bien que pour Sismondi, la liberté illimitée de l'industrie est la poursuite obsessionnelle de la richesse, qui est encouragée par Ricardo, par exemple, détruise la liberté civile qui était pourtant dans ces mythiques républiques italiennes, comme dans les cantons suisses et surtout comme à Genève, à l'origine de l'accroissement initial des richesses. Donc on a bien cette liberté du commerce et de l'industrie qui vient, une espèce de vengeance, détruire la liberté civile duquel elle est issue.
Si on veut bien comprendre cette bascule qui est effectivement très importante en l'espace de 15 ans, vous l'avez dit Pascal Bridel, c'est avant tout parce qu'on a commencé à le dire, il y a un événement majeur qui apparaît à la face du monde, il y a une prise de conscience générale de ce qu'est l'industrialisation en Angleterre au tout début du 19e siècle, dans les années 1815. Cette prise de conscience, elle se fait notamment par, on l'a dit, la crise de la surproduction.
Après l'avènement de la machine, considérons la nature des progrès accomplis. Jadis, dans une journée de travail de 12 heures, trois hommes, sans machine, faisaient chacun une paire de chaussures. Supposons qu'ils se servent d'une machine. Leur production est triplée. Leur journée de travail est ramenée de 12 heures à 8 heures, parfois même à 6 heures. Trois fois plus de chaussures et deux fois moins de travail. Le troisième devra-t-il continuer à fabriquer des chaussures ? Ou fera-t-il autre chose avec une autre machine ? Des sacs à main, par exemple. Ils auront alors une journée de travail de 8 heures, une production accrue et une nouvelle fabrication. Récapitulons. 3 hommes, 3 paires de chaussures, 12 heures de travail. Ou alors, 3 hommes, 4 paires de chaussures et des sacs à main. Le tout en 8 heures de travail. Ainsi, depuis plusieurs années, la machine fournit aux hommes de nouvelles activités et élève leur standard de vie.
Voilà, la surproduction telle qu'elle est présentée dans cette archive de 1951. Nicolas Aiguesier, vous avez utilisé un terme dont on n'a pas forcément la référence. Vous avez utilisé cette notion d'industrialisme. Alors, on a l'impression qu'il s'agit d'un courant, d'une doctrine, à ne pas confondre forcément avec industrialisation. De quoi s'agit-il avec cet industrialisme qui se concrétise, on va dire, à cette époque-là?
Alors l'industrialisme, je vais faire intervenir un nouvel acteur là dont on n'a pas parlé encore, c'est les Saint-Simoniens. Ça veut dire lui, Sismondi va utiliser le terme industrialisme pour regrouper toutes les écoles qui défendent la production,
qui croient au progrès en fait,
qui croient au progrès, à un certain type de progrès, c'est-à-dire le progrès en tant que production, en tant que pouvoir de l'homme sur la nature. Ça c'est une nouvelle notion du progrès, parce que Sismondi aussi croit au progrès, mais c'est pas du tout ce progrès-là. Lui c'est le progrès de la liberté, de la morale, des institutions, de l'art, et le progrès des machines c'est une partie de ce progrès-là. Alors que les économistes libéraux, à partir des années 20 justement, des gens comme Jean-Baptiste Say, comme Laborde, comme Malthus, et après plus tard on peut parler de Michel Chevalier, qui vont dire qu'est-ce qui fait la civilisation ? C'est le pouvoir scientifique. Donc plus on a des belles machines, c'est ce que dit Jean-Baptiste Say, plus on est civilisé. Et si Archimède et Pline venaient à notre époque, dans les années 20, ils seraient vraiment émerveillés totalement de notre civilisation. Voilà. C'est évidemment Jean-Baptiste Say qui est émerveillé, hein, pas Archimède, ça on n'en sait rien. Peut-être qu'il ne serait pas du tout émerveillé. Et donc, industrialisme, Sismondi, ça lui permet de regrouper sous le même terme tous ses ennemis et de... Voilà. Aussi bien socialistes, organisateurs que libéraux. Il va leur trouver un point commun. Et en effet, je pense que c'est ça qui est important, qui permet de comprendre la position de Sismondi, c'est de rajouter une troisième inconnue à l'équation, pas seulement libéral ou antilibéral, hein, organisateur, on va dire, pour l'époque, hein, mais la question de l'industrialisme. Et là, ça complexifie un peu le débat.
Ça complexifie le débat et puis peut-être que potentiellement ça isole aussi Sismondi. Dans quelle mesure essayer de trouver cette forme de troisième voie en se faisant, vous l'avez dit, des ennemis. Il les considère comme des ennemis, les industrialistes. Dans quelle mesure cette position très originelle l'isole aussi quelque part ?
En fait, il est beaucoup moins isolé qu'il le dit. Déjà, les autres économistes sont d'accord pour dire, même si c'est pas dans le même sens que Sismondi, que la théorie de Smith, il faut la mettre à jour. Hein. Par exemple, quelqu'un comme Jean-Baptiste Say va dire Smith n'a rien compris au phénomène de la production parce que dans sa description de la division du travail, il n'y a pas les machines, il n'y a pas ce qu'il appelle le pouvoir scientifique. Donc, on comprend bien qu'en fait, la société que décrit Smith, c'est pas celle de la société industrielle. Donc, voilà. Donc, il n'est pas le seul dans ce courant. Et il y a d'autres économistes libéraux qui disent, bon, en effet, Smith, il faut réinterpréter Smith à la lumière des nouveaux événements. Ça, c'est une chose, oui.
Sachant que j'y reviens, et peut-être avec vous, Pascal Bridel, les nouveaux événements, c'est aussi la surproduction. Alors, il faut nous aider à comprendre pourquoi ce phénomène-là de la surproduction agit comme une sorte d'élément déclencheur, et notamment chez Sismondi. Qu'est-ce qu'ils voient les économistes comme signe d'un très bon fonctionnement ou au contraire d'un dysfonctionnement de l'économie ?
Bon, c'est ce à quoi vous faites allusion et cette célébrissime querelle des débouchés querelle qui n'est toujours pas résolue du reste au jour d'aujourd'hui. On utilise des termes plus techniques, mais c'est toujours la même problématique de l'équilibre global d'une économie entre offre globale et demande globale à un niveau de production qui garantissent le plein emploi de tous les facteurs de production, salariés compris. Et cette dispute prend place entre Ricardo, Sismondi, Say et Malthus. Et c'est la célèbre phrase que l'offre crée sa propre demande, disent Ricardo et Jean-Baptiste Say, où on parle du problème de la balance des productions, balance comme équilibre des productions et des consommations. Et cette dispute est au centre du développement de la théorie d'un système de marché depuis le début de la révolution industrielle. Pour Sismondi, cette définition des conditions d'équilibre entre l'offre et la demande globale au plein emploi par le biais de la loi des débouchés n'est qu'un préalable théorique à une contextualisation historique et interdisciplinaire, bien entendu pour lui, de la dynamique des déséquilibres constants que traverse une économie décentralisée en voie d'industrialisation. Donc, on a souvent accusé Sismondi de rejeter la théorie économique pure et dure de Ricardo. Absolument pas. Il ne rejette aucunement le raisonnement à l'équilibre de Ricardo. Sismondi est même l'un des premiers à se soucier des processus d'ajustement qui doivent prendre place dans un temps historique et dans un cadre social et institutionnel, par exemple à la suite d'un choc technologique. Donc l'économie politique ne saurait être pour lui une science exacte, elle doit rester une science morale. Et il écrit, ça m'a toujours beaucoup surpris, il écrit que l'économiste s'adresse au cœur aussi bien qu'à la raison. Donc l'un domine exclusivement la logique pure de la coordination marchande, il adopte la méthode a priori qui conduit à la découverte de vérités extrêmement générales et aux formules universelles de la science, fin de citation. Dans l'autre, il adopte une démarche pour laquelle une théorie du marché sans examen de ses conséquences sur le lien social n'est qu'une demi-théorie marché. Et cette querelle des débouchés, qui est une querelle théorique extrêmement complexe et qu'on retrouve toujours aujourd'hui parce qu'on n'a toujours pas démontré à la stabilité.
Mais ça reste la matrice du débat.
Ça reste la matrice du débat. Alors on pourrait maintenant entrer dans la discussion sur la manière dont les uns et les autres se disputent sur le rôle de la concurrence, la pression à la baisse sur les coûts de production et sur les salaires, le rythme du progrès technique. Tous ces éléments-là nous entraîneraient probablement trop loin, mais c'est bien fondamentalement ce que Keynes, parce que Keynes s'en inspirera aussi, l'insuffisance.
On va voir Pascal Bridel qui a été l'héritage peut-être aussi de Sismondi, mais effectivement peut-être que tous ces éléments nous emmèneraient trop loin et nous empêcheraient de faire intervenir Nicolas Aiguesier qui souhaitait réagir justement.
Je voulais juste dire simplement pourquoi les économistes parlent des bouchers, de surproduction. Parce qu'il y a de la surproduction, tout simplement. C'est nouveau, c'est un phénomène absolument nouveau. Et quand ils voient ce qui se passe en Angleterre, quand ils retraversent la Manche après Napoléon, après les guerres napoléoniennes, où l'Angleterre a été isolée pendant une vingtaine d'années quasiment, ils s'étonnent énormément de ce qu'ils voient. Et l'étonnement est généralisé, donc il faut comprendre ce qui se passe. Et là, c'est là aussi que je reviens un tout petit peu en arrière. C'est là que Genève a une importance, c'est parce que les Anglais viennent à Genève quand ils font le voyage en Italie, quand la haute société anglaise fait son voyage en Italie tous les ans, passer l'été en Italie, en dehors de la session parlementaire, ils viennent à Genève, ils viennent raconter. Il y a la bibliothèque britannique, et donc. Ils doivent comprendre ce qui se passe. Mais c'est vrai qu'on a des récits de voyage. On a Benjamin Constant qui dit il se passe quelque chose de bizarre en Angleterre. L'aristocratie licencie ses paysans. Jean-Baptiste C qui dit c'est bizarre, il y a ces espèces de voitures qui marchent sans le secours d'aucun être animé. Donc le public est vraiment stupéfait de ce qui se passe. C'est ce que reprend Sismondi en disant. J'ai vu dans ce pays, par de l'Angleterre, j'ai vu dans ce pays étonnant qui semble vivre une expérience pour le reste du monde. Voilà.
Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, Nicolas Aiguezet, c'est qu'effectivement c'est un étonnement général face à cette industrialisation qui ne sont pas uniquement des usines modernes comme on pourrait peut-être parfois en trouver en France ou ailleurs. Il y a tout le concept même d'industrialisation qui prend place en Angleterre. Il y a toute la concentration des ouvriers dans les usines, les liens entre science et industrie, le travail des femmes et des enfants, la concentration de la propriété du sol et l'exode rural. Tout ça, on le retrouve en Angleterre. Il y a un vrai effet de surprise dont on n'a pas forcément conscience avec le recul, mais qui effectivement au tout début des années 1815-1810 surprend énormément. On retrouve donc un Sismondi qui lui se prend donc en pleine face cette industrialisation galopante anglaise et qui donc va partir en guerre contre les économistes anglais dont Ricardo. Il tient à assumer sa position. Sismondi a désormais certes des ennemis, les industrialistes, mais qu'il combat tout au long de sa vie au nom du libéralisme. Vous êtes bien à l'écoute de France Culture. Nous dressons aujourd'hui le portrait de Jean de Sismondi, libéral intégral et intègre aussi d'une certaine manière face à l'industrialisation. Et nous sommes toujours en compagnie de Nicolas Aiguezet et de Pascal Bridel. Pascal Bridel, c'est vous qui nous avez conseillé de passer la symphonie numéro 6 de Beethoven. Pourquoi ce choix ?
C'est un choix qui est un petit clin d'œil au fait que le modeste économiste qui était Sismondi, face à ce géant de la musique qu'est Beethoven, se sont peut-être croisés au moment où Beethoven composait sa sixième symphonie à Vienne en 1808, où Sismondi se trouvait alors qu'il était, si je puis dire, pas très élégamment dans les bagages de Madame de Staël qui faisait le tour de l'Europe et qui se trouvait à ce moment-là à Vienne. Et Sismondi s'est improvisé avec un certain succès conseiller économique du ministre des Finances et de l'empereur d'Autriche sur le financement de la guerre, contre Napoléon, bien entendu, à ce moment-là. Et son rapport que nous avons publié est extrêmement intéressant parce qu'il anticipe déjà un certain nombre de problèmes liés au financement de la guerre que va connaître assez rapidement l'Angleterre. Et il y a un certain nombre d'éléments dans la discussion en théorie monétaire, par exemple, sur la suspension de la convertibilité de la monnaie autrichienne à l'image de la suspension de la convertibilité de la livre anglaise, qui sont examinés indépendamment par Sismondi, qui fait preuve ici d'une excellente capacité de théoricien, alors que Ricardo ne s'est encore absolument pas intéressé à la question.
Pascal Bridel, vous m'offrez une transition parfaite, parce qu'on a beaucoup parlé des voyages de Sismondi, de sa querelle, notamment avec certains économistes, dont Ricardo. Vous le dites, alors certes, on l'a dit, hein, Malthus assiste à son mariage, mais vous le dites que malgré cet accueil chaleureux intellectuellement, l'accueil est en réalité glacial. On voit comment il se positionne dans ce paysage intellectuel-là, mais concrètement, qui écoute Sismondi? Vous l'avez dit, il est parfois conseillé, on va dire, dans des hautes instances, mais au-delà de ce cercle d'intellectuel, est-ce qu'il pèse un poids, on va dire, ne serait-ce que politique, Sismondi, à son époque?
Non.
Bon, je constate sans appel.
Si je prends le cas de la France, ça n'est certainement pas le cas, en dépit de son bref ralliement, mais très très bref, l'espace d'une après-midi à Napoléon pendant son jour. Si on examine ce qui se passe en Angleterre, il n'est complètement ignoré, à part ses relations jusque vers 1820-22 avec Ricardo et Malthus. Dans tout le 19e siècle, personne ne citera Sismondi en Angleterre. Et pire, en France, l'école libérale, dans la tradition de Jean-Baptiste Say, s'arrangera pour pratiquement exclure Sismondi et ses œuvres des rééditions multiples qui auront lieu, par exemple, la célèbre collection des principaux économistes qui date des années 1845-1850. Tout le monde y est, sauf Sismondi. Donc, en termes d'influence intellectuelle, je pense que les économistes qui vont le plus s'en inspirer sont très paradoxalement, Mélanie-Nicolas Aiguesier est bien plus compétent que moi, Marx et Lénine.
Alors justement, vous nous parliez de Karl Marx, je vous propose d'écouter un extrait de son manifeste de 1848 où justement il est fait mention de Sismondi.
Dans les pays comme la France, où les paysans forment bien plus de la moitié de la population, il est naturel que des écrivains qui prenaient fait et cause pour le prolétariat contre la bourgeoisie aient critiqué le régime bourgeois et défendu le parti ouvrier d'un point de vue petit bourgeois et paysan. Ainsi se forma le socialisme petit bourgeois. Sismondi est le chef de cette littérature, non seulement en France, mais en Angleterre aussi. Ce socialisme analysa avec beaucoup de pénétration les contradictions inhérentes au régime de la production moderne. Il mit à nu les hypocrites apologies des économistes. Il démontra d'une façon irréfutable les effets meurtriers du machinisme et de la division du travail, la concentration des capitaux et de la propriété foncière, la surproduction, les crises, la fatale décadence des petits bourgeois et des paysans, la misère du prolétariat, l'anarchie dans la production, la criante disproportion dans la distribution des richesses, la guerre d'extermination industrielle des nations entre elles, la dissolution des vieilles mœurs, des vieilles relations familiales, des vieilles nationalités.
Nicolas Aiguesier, il faut savoir que Sismondi est le seul économiste avec Ricardo à être cité par Marx dans son manifeste de 1848, dont on entendait là un extrait. Et d'ailleurs, il le qualifie, on l'entendait, de socialiste petit bourgeois. C'est tout de même assez curieux, sachant que, et c'est d'ailleurs quelque chose qu'il faut nous expliquer, Nicolas Aiguesier, sachant que Sismondi n'a jamais, on va dire, répondu aux appels du pied, notamment des socialistes plutôt saint-simonistes, qui avaient vu potentiellement dans Sismondi un potentiel allié dans sa critique de l'industrialisation. Comment on en arrive là à Marx, qui fait de Sismondi un socialiste petit bourgeois?
Alors, comment résumer tout ça en deux minutes? Je pense qu'en fait, on touche à un point très, très important parce que, évidemment, le manifeste du parti, le manifeste communiste, c'est un livre qui est extrêmement lu. Donc, le jugement de Marx a valu jugement pour l'histoire, hein. C'est un peu le baiser de la mort parce que, il le félicite quand même. Il fait un éloge de Sismondi, hein, qui décrit parfaitement les crises, le capitalisme en fait. Hein, Marx n'utilise pas le terme de capitalisme, mais le mode de production capitaliste. Et à la fin de la citation, il dit bon, ils n'ont rien à proposer que les guildes et le système patriarcal dans les campagnes et les guildes dans les villes. Et il dit après l'ivresse, le réveil crapuleux, cette école s'est dissoute dans un lâche abandon. Donc en fait, il lui règle son compte, évidemment. Et ensuite, il y aura toute une tradition léniniste pour traiter Sismondi de petits bourgeois, de réactionnaires, de passéistes, etc. Voilà. En réalité, si Marx s'énerve, ou on utilise un peu comme ça cette ironie mordante, c'est parce que Sismondi vient toucher à un point faible de la théorie marxiste, qui est sa théorie historique. Parce que Marx, en 48, il est moderniste, industrialisateur, il félicite la bourgeoisie pour ses avancées technologiques, voilà, le télégraphe, les chemins de fer, etc., etc. Et il dit, regardez, cette industrie moderne va permettre la révolution. Mais plus tard, justement après la sortie du Capital, il va revenir sur cette théorie historique, hein. C'est tout l'intérêt de Marx pour les sociétés traditionnelles, notamment pour la question de la naissance du capitalisme. Donc finalement, le cadre se déplace, ça va se déplacer de l'Angleterre à la Russie. Hein, je passe un peu les détails. Et qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là? Quel auteur il va convoquer? Je vous le donne en mille, Sismondi. Ça veut dire que la théorie de naissance du capitalisme, qui vient complètement contredire ce qu'il raconte dans le manifeste communiste, la question de la disparition des communs et de l'expropriation des cultivateurs, c'est une théorie sismondienne. Elle existe, elle est là, chez Sismondi dans les années 30. Il la reprend mot pour mot.
Ce qui est tout de même intéressant, Pascal Bridel, et vous l'avez dit, Nicolas Aiguesier, c'est cette vision que reproche Marx à Sismondi, un peu passéiste, etc. Mais parce que ça nous dit aussi quelque chose de la solution, je mets là des guillemets, que proposait Sismondi. On l'a compris, il critique, on va dire, cette industrialisation qui est en marche, notamment du point de vue des prolétaires. Il en a conscience de cette liberté qui est enlevée aux prolétaires qui n'ont plus tellement le choix de décider de gagner leur vie ou non. Il y a vraiment une prise de position de Sismondi de ce point de vue-là. Sismondi s'est aussi positionné en 1834 au moment de la révolte des Canuts, ça a été un épisode important pour lui. Alors on l'a compris, il n'est pas pour autant révolutionnaire, mais alors que propose-t-il Pascal Bridel en fait pour contrecarrer, on va dire, quel modèle il propose pour revenir à une économie qui serait plus vertueuse selon lui?
Eh bien, ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire pas grand-chose en termes de la réalité économique et sociale du moment, à savoir un retour en arrière, un retour à la petite entreprise, un retour à une proximité étroite entre le patron et le salarié. En fait, il est dans une situation où il est au bord du chemin, il fait des gestes désespérés à l'égard des économistes traditionnels ricardiens qui prennent un chemin à gauche alors qu'il leur dit « mais il y a aussi le chemin de droite qu'on ne doit pas négliger ». Mais en termes de propositions concrètes, il n'y a pas grand-chose, même s'il fait quelques allusions, mais que son libéralisme réprouve immédiatement quant à des interventions de l'État en termes de conditions de travail ou éventuellement d'assurance. Mais c'est extrêmement léger et on comprend finalement d'une certaine manière l'insuccès de Sismondi, qui est un superbe critique de la théorie à l'équilibre, qui dit qu'il faut absolument partir en direction d'un processus, mais le processus, il ne nous le décrit que très légèrement.
Alors, vous l'avez dit, Pascal Bridel, Sismondi est un excellent critique de cette situation qu'il analyse. Nicolas Aiguesier, est-ce qu'il y a une forme d'héritage au-delà de cette citation par Marx? Mais est-ce qu'il y a aujourd'hui des économistes qui pourraient se réclamer sismondiens? Vous avez une vingtaine de secondes pour me répondre.
Moi, je pense que c'est ça qui fait sa force aussi. C'est vrai que c'est ça qui explique, parce qu'elle a raison, qu'il est resté méconnu. Et en effet, il n'a pas fait école. Mais en fait, le diagnostic historique qu'il a fait, il est très fort. Moi, je pense qu'on peut le rapprocher d'auteurs comme Max Weber, comme Mumford, qui le cite, des critiques de la technique, de la technologie comme Gunther Anders, qui ont repris aussi certains passages de Sismondi. Donc, en effet, pour moi, ça reste un auteur très, très puissant de ce point de vue-là. Mais en effet, il n'a pas fait école.
Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux, Pascal Bridel et Nicolas Aiguezier, d'avoir participé à cette émission.